Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. On commence avec notre journal et une enquête importante parue hier sur le site Mediapart. Chantage à la préfecture de Gironde pour évincer un entraîneur de foot musulman, c'est le titre de cette enquête. Les faits remontent au printemps 2023. Sidi, 39 ans, alors entraîneur de l'équipe de foot de ce nom, il fait l'unanimité avec plus de 30 victoires et seulement 3 défaites en 2 saisons. Mais le 16 avril, après une rencontre de Coupe d'Aquitaine, la police municipale prend en photo des prières effectuées sur un terrain annexe. Même si aucun joueur ni personnel du club ne s'y trouve, cela alimente des suspicions de prières avant et après le match dans un vestiaire avec la complicité passive des dirigeants. Rapidement, la préfecture de Gironde demande à la mairie de ce nom et au club de mener une enquête interne et de rappeler les règles de laïcité. Cette enquête est menée et conclut à l'absence de prière. Aucun élément ne prouve que ces faits auraient eu lieu. Mais cela ne suffit pas. Une nouvelle réunion a lieu à la préfecture en juin. Et selon les témoins contactés par Mediapart, la direction régionale de la jeunesse et des sports menace alors très clairement de bloquer les subventions versées au club tant que Sidi restera entraîneur. Quelques jours plus tard, il se voit signifier, Sidi, donc le non-renouvellement de sa licence de foot par le club. Par la suite, 3 cadres de l'US Senon ont par ailleurs démissionné en laissant des lettres qui dénoncent le chantage de la préfecture. Voilà, l'article complet est à lire sur Mediapart. Et ça nous rappelle une autre histoire plus récente, c'est celle de l'annulation d'un stage à la découverte du monde des drag queens qui devait avoir lieu pendant les vacances de février à la MJC Clal de Mérignac. Quelques semaines auparavant, des collectifs d'extrême droite avaient médiatisé cet événement et envoyé des messages et menaces personnelles pour le faire annuler. Plus grave, un communiqué des syndicats Solidaire Jeunesse et Sport, Asso Solidaire et Solidaire 33 dénonce les pressions qu'aurait également opéré la préfecture sur la MJC. Selon ce communiqué, ce sont là aussi les services Jeunesse et Sport qui auraient pratiqué un chantage en menaçant la MJC de lui retirer son agrément Jeunesse Éducation Populaire qui lui permet d'accéder à des subventions. L'administration n'a pas tergiversé pour collaborer et se positionner donc clairement aux côtés des réactionnaires d'un autre temps selon les syndicats qui publiaient ce communiqué. Autre sujet, il ne s'était pas mobilisé depuis 2007, ce sont les salariés de l'entreprise d'intérim américaine Manpower qui étaient en grève hier. Alors que Manpower a réalisé 125 millions d'euros de bénéfices nets en 2023, seuls 5 petits millions ont été redistribués à ses employés, dénonce l'intersyndicale. Pendant ce temps, les actionnaires, eux, se sont versés 240 millions d'euros de dividendes. Les syndicats demandent une enveloppe de 7 millions d'euros à répartir équitablement entre les salariés. Ces derniers souffrent non seulement de l'inflation, mais aussi d'objectifs inatteignables, ce qui entraîne un important turnover selon les syndicats cités aujourd'hui dans le journal Sud-Ouest. Tout le long du mois de mars, le collectif contre les abus policiers, le CLAP 33, organise pour marquer ses 15 ans d'existence des événements autour des violences d'État et du racisme systémique, dont la marche annuelle contre les violences d'État et le racisme systémique qui aura lieu le 16 mars. Avant ça, il y aura une soirée de soutien au CLAP 33 avec projection du documentaire « Gilets jaunes, une répression d'État ». Suivi d'un concert et cette soirée de soutien elle a lieu demain jeudi à partir de 18h au Café Pompier à Sainte-Croix. Et puis je signale que hier 3 militants du CLAP étaient également jugés pour avoir participé à des rassemblements statiques non autorisés ou non déclarés, c'était en juin dernier et en hommage à Lamine Dieng tué étouffé dans un fourgon de police en 2007, et bien ces 3 militants ont été relaxés. Et puis vous vous souvenez peut-être des camarades de la CGT Enedis qui avait été poursuivi en justice pour avoir coupé l'électricité de plusieurs bâtiments durant la mobilisation contre la réforme des retraites. En janvier, ils ont été relaxés par la justice, même si un procès en appel devrait avoir lieu bientôt. Mais ils sont toujours poursuivis en interne et ils sont convoqués demain, jeudi, à un entretien par la direction, par la commission de discipline d'Enedis. En soutien, donc, un rassemblement aura lieu à partir de 12h. Devant Enedis, ça se passe aux 4 rue Isaac Newton à Mérignac. Midi 15 sur la clé des ondes. Autre actualité, c'était le conseil municipal hier. Bonjour Myriam.
Bonjour Baptiste.
Tu t'y es rendu pour la clé des ondes.
Oui, c'est un conseil municipal apaisé qui s'est tenu hier après-midi à l'hôtel de ville de Bordeaux, un mois après le dernier conseil qui, lui, avait été marqué par des échanges électrique entre élus de l'opposition et de la majorité. Alors afin de désamorcer les tensions, les présidents de groupe se sont donc réunis ce lundi à l'initiative du maire Pierre Urmic. À la suite de cette réunion, plusieurs compromis ont été faits avec notamment un accord sur le changement d'horaire des conseils municipaux. À partir du mois de juin, les conseils à l'ordre du jour chargés débuteront à 10h au lieu de 14h habituellement. Ce sera notamment le cas des conseils qui votent les textes relatifs aux questions budgétaires qui sont donc habituellement les plus longs. Le conseil d'hier, lui, n'aura pas duré plus de 4 heures. Et parmi les sujets abordés, on revient aujourd'hui sur le contrat de ville métropolitain 2024-2030 qui faisait partie des décisions les plus débattues hier. Alors ce partenariat, signé entre l'État et les collectivités, a pour objectif d'améliorer les conditions de vie générales dans les quartiers labellisés par l'État « quartiers prioritaires de la ville », connus sous le nom de QPV. Aujourd'hui, à Bordeaux, ce sont près de 22 000 habitants qui vivent dans ces quartiers et 6 zones sont concernées, parmi lesquelles Bordeaux-Lac, La Benauge, Grand Parc, Bacalan, Les Aubiers et enfin Marne-Capucin. C'est le maintien de cette zone qui relie donc le cours de la Marne à la place des Capucins qui a fait l'objet d'âpres négociations entre la ville et l'État, car en effet le quartier Saint-Michel a été effacé du nouveau périmètre prioritaire et ne sera donc plus concerné par le contrat de ville métropolitain. La ville de Bordeaux s'est battue pour plaider en sa faveur, a affirmé hier l'adjointe au maire chargée de la politique de la ville, Fanny Le Boulanger. L'élu dit regretter la disparition de ce quartier dont elle a souligné les fragilités persistantes malgré la forte gentrification que ce quartier a connue ces dernières années. L'année 2024 sera donc consacrée au temps de la concertation afin de faire remonter les besoins des 22 000 Bordelais concernés. Et c'est bien cette concertation, Baptiste, qui a été fustigée hier par les élus de l'opposition à droite comme à gauche. La majorité municipale s'est notamment vue reprocher la lenteur de ces actions concernant le mal-être des habitants qui vivent dans ces QPV. La révolte des jeunes que les quartiers populaires ont connue l'été dernier en avait pourtant été l'un des indicateurs, à regretter l'élu renouveau Aziz Skali. Un constat qui a été partagé par Philippe Poutou du groupe Bordeaux en lutte.
Sujet connexe, c'est une subvention de 666 000 euros qui a été votée hier en faveur du groupement d'intérêt public, le GIP, Bordeaux Métropole Médiation.
Oui, le GIP Médiation a vu sa subvention augmenter de 33% par rapport à l'année dernière. Alors, ce dispositif, qui existe depuis 2014, peut être saisi par tous les habitants de Bordeaux et du reste de la métropole, avec un objectif: régler ses problèmes de voisinage de manière pacifique, accompagnée d'un médiateur ou d'une médiatrice. Aujourd'hui, un binôme de médiateurs est présent dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux. Le nouvel adjoint au maire, chargé de la sécurité, Marc Etcheverry, a aussi annoncé hier après-midi le recrutement de 9 médiateurs supplémentaires pour la ville de Bordeaux. Alors, si l'opposition de droite a voté en faveur de cette délibération, la question de la sécurité est très vite arrivée sur la table par les voix notamment de l'élu Bordeaux Ensemble, Alexandra Siari, soutenue par son collègue Aziz Scali de Renouveau Bordeaux. La rue Élie-Gintrac et le quartier Saint-Paul ont notamment été mentionnés, alors que des collectifs de riverains s'étaient plaints à plusieurs reprises de problèmes d'insécurité dans ces zones du centre-ville. Marc Etcheverry a de son côté souligné l'importance d'une action complémentaire des médiateurs, de la police municipale, mais aussi de la police nationale, rappelant au passage que la lutte contre les trafics de stupéfiants restait, elle, une compétence de l'État.
Et puis enfin, Myriam, l'avis de la convention citoyenne organisée par la ville de Bordeaux a été rendu hier.
Oui, Baptiste, 2 porte-parole ont rendu hier leur avis suite aux travaux menés pendant 1 an à ce sujet-là. Ils ont proposé plusieurs pistes de réflexion pour répondre à une question ambitieuse qui était comment mieux agir collectivement face à la crise climatique. L'ensemble des élus a salué les efforts fournis par les participants de cette convention citoyenne. Parmi les propositions mises en avant, les porte-paroles ont notamment évoqué la mise en place d'un comité citoyen consultatif qui pourrait être saisi par les élus ou s'auto-saisir sur certains sujets discutés à la ville de Bordeaux. La question de la semaine de 4 jours a également été mise sur la table et a déjà suscité des premières réactions hier, notamment concernant le nombre d'heures de travail hebdomadaires qu'elle permettrait. La majorité semble avoir retenu le message passé par les porte-paroles hier, que je cite, et qui se sont adressés au maire en lui disant « Vous êtes venus nous chercher, maintenant nous ne vous lâcherons pas ». Sur notre antenne, je vous invite à nous écouter la semaine prochaine car une émission sera consacrée aux conclusions de ce grand dialogue citoyen.
Voilà, très probablement mardi ou mercredi prochain. Merci beaucoup Myriam.
Merci Baptiste.
Midi 20 sur la Clé des Ondes. Vendredi dernier, le Garage Moderne a inauguré ses nouveaux locaux à la Cité Bleue, des locaux temporaires. L'occasion d'aller à la rencontre de cet assaut multicarte installé à Bacalan et de ses acteurs et actrices. Un reportage tout de suite de Léa Perron.
Au Garage Moderne, on répare, on expérimente et on s'entraide aussi beaucoup. Après 4 semaines de fermeture pour cause de déménagement, le Garage Moderne a réouvert fin janvier. Il est désormais installé à la Cité Bleue, au 172 rue Achard, bâtiment H, l'occasion de revenir sur l'identité de ce lieu et ses différentes missions et projets à venir. Julien Goré, directeur adjoint, nous livre l'ADN de ce garage singulier.
Oui, alors le Garage Moderne, c'est à la fois un lieu de fabrique et un lieu culturel. En fait, c'est comme son nom l'indique, c'est un garage, mais c'est un vrai garage où on répare des voitures en accompagné. Donc c'est un garage participatif, où vous pouvez venir réparer votre voiture avec un mécanicien. On a un atelier vélo sur le même principe. On a une cantine qui fait à manger tous les midis pour tout le monde et des portions pour l'aide alimentaire également. On accueille plein d'événements. Des concerts, du théâtre, des foires, etc. Donc c'est un grand endroit où à la fois on fabrique des trucs et on reçoit du public et on fait fabriquer des trucs au public.
Donc là vous avez déménagé, vous êtes dans un nouvel espace de manière temporaire pour 2 ans. Ici c'est immense, vous êtes dans une structure de combien de mètres carrés là ?
Alors, notre ancien local, il faisait 2400, celui-là, il fait 3004, mais on n'est pas tout seul dedans et c'est plutôt chouette. C'est-à-dire que nous, on a une première tranche, on a la première moitié en fait, du hangar qui est sur nos activités que je viens de décrire. Et le reste de la surface, c'est Crézière, qui est une compagnie de trapèzes volants, qui sont nos voisins. Donc maintenant, on répare des voitures, il y a des gens en trapèze qui passent pas au-dessus, mais à côté. Il y a le stock du TNBA aussi, qui est dans le même bâtiment que nous. Et bientôt, il y aura des menuisiers qui travaillent avec une énorme machine numérique qui sert à découper le bois pour faire des trucs trop bien.
Pour revenir un petit peu sur l'historique du Garage Moderne, depuis combien de temps ça existe et de quel constat c'est né ?
Alors, c'est le garage moderne, c'est un vieux projet, ça a 23 ans. Donc, c'est un départ qui est très militant et très, très bénévole et très spontané. Donc, en fait, c'est parti de l'idée de personnes qui voulaient réparer des voitures ensemble, donc qui ont cherché un local, qui ont trouvé un local très grand, immense, donc le sud rue des étrangers de 2400 mètres carrés. Et il y a toujours eu l'envie et puis la générosité d'accueillir des événements, d'accueillir de la culture et de l'art et de laisser ça se déployer dans un endroit qui n'est pas prévu pour. Donc, très vite, les ponts et les voitures, c'était dans un coin. Et tout le reste de l'espace, c'était disponible pour tout le reste. Et c'est donc un garage, comme le garage où on répare sa voiture, et en même temps le garage où on fait tout ce qui n'est pas prévu et tout ce qui ne passe pas, quoi. Donc il y a eu au garage les grandes traversées, des grands événements comme ça depuis le début des années 2000. Et c'est un projet qui s'est mis à héberger ou à lancer des projets internes, comme l'atelier vélo. Hein. Au départ, c'était un chantier d'insertion qui réparait les vélos que la ville de Bordeaux prêtait aux habitants. Donc il y a eu cette activité qui est restée, qui est toujours là. La cantine qui a existé sous plusieurs formes et qui là est pérenne depuis 2018. Et depuis 2020, on fait de l'aide alimentaire. Depuis le Covid, on s'est jamais arrêté. Donc c'est un lieu qui accueille les projets des autres, qui laisse place pour de nouvelles dynamiques dans le projet lui-même et qui accueille des résidents et d'autres choses. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a des espaces qui sont alors ils sont pas visibles là où on est, mais ils sont dédiés à des résidents, donc ils sont des artistes ou des gens qui font de l'artisanat et avec qui on a des affinités en termes de projets. Donc c'est Low Tech Lab, c'est toute une série de peintres et de sculpteurs avec qui on bosse, on fait au maximum des projets ensemble et en tout cas on partage l'espace.
Donc 23 ans que ça existe, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué en 23 ans, des choses qui se sont ancrées peut-être et d'autres qui ont disparu dans le garage moderne ?
Alors plein de structures comme ça sur la durée ont une vie finalement un peu comme la nôtre. Nous on a commencé d'une manière qui était très militante et très bénévole, donc avec un rythme, une spontanéité et puis la liberté d'inventer des trucs. Voilà. Cette dynamique elle a payé au sens où elle s'est transformée en quelque chose qui était plus reconnu et donc plus financé, enfin, et plus soutenu de manière générale. Donc il y a eu des salariés à partir, je crois, de 2005. Et à partir de là, on pouvait faire du projet au sens on le pense, on le finance et on fait en sorte de faire des choses qui peuvent durer toujours et pas juste jusqu'à épuisement des gens qui les portent. C'est ça le virage, en fait, et qui se fait avec le temps. Donc là-dessus, il y a eu des étapes. Hein. La première étape, quand c'était rue des étrangers, on s'était loué à un privé, pas très cher, mais c'était quand même un sacré chèque tous les mois. La première reconnaissance, c'était que le bâtiment a été racheté par la ville pour nous maintenir dedans quand il y a eu le projet urbain là-bas. Et après, c'est comme toutes les structures, si on propose des activités et une vie qui apporte quelque chose à la collectivité, on s'en sort et les projets continuent, quoi. L'aide alimentaire, c'est ça depuis 2020, c'est-à-dire qu'on l'a fait pendant le Covid, ça a fonctionné. On l'a transformé pour que ça tienne dans la durée et qu'on ne perde pas les réseaux qui avaient été mis en place à cette étape-là et c'est devenu une nouvelle activité. Donc voilà, la vie, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les projets qui ont commencé, arrêté, commencé et qui continuent, etc. Mais on fonctionne pas mal comme un espace de test qui donne la liberté de faire au début et après ça marche, ça ne marche pas, mais on ne laisse pas d'espace vide. Voilà.
Donc au niveau de l'organisation, du fonctionnement du garage moderne, il y a combien de salariés, de bénévoles qui font tourner le garage en fait ?
Alors le garage moderne c'est 20 salariés, on a un conseil d'administration, au total il y a 14 personnes dedans, dont 4 salariés, c'est une bizarrerie par rapport à plein d'assos mais qui fonctionne chez nous. On a des adhérents, je crois il y en a 1000, c'est toujours autour de 1000, c'est entre 950 et 1050 qui ont une activité dans les ateliers, qui fabriquent des choses ou qui réparent leurs affaires au vélo, à l'auto. Et les publics qui sont adhérents, type du bar associatif, hein, de la cantine fonctionne comme un bar associatif, hein, ou qui viennent à des événements, c'est autour de 20 000 par an dans la configuration actuelle.
Donc tu me l'évoquais, mais le garage moderne, c'est un lieu tourné vers la mobilité. Il y a des ateliers participatifs pour réparer son vélo, sa voiture. Comment ça se passe ? Comment ça marche ?
Alors, le garage, sous ses deux aspects, hein, auto et vélo, c'est effectivement un lieu qui accompagne aux mobilités. Alors mobilité douce, alors la voiture c'est pas une mobilité douce, mais moi je dis que c'est en fait de l'automobile low-tech en quelque sorte. Le principe est simple, vous venez avec votre véhicule et vous le réparez au maximum en faisant et vous apprenez en faisant avec des mécaniciens. Donc nos salariés, leur job c'est de résoudre des problèmes et d'apprendre aux gens qui bénéficient de cette expertise là à le faire eux-mêmes ou en tout cas à comprendre les tenants et les aboutissants de ce que nous on a fait sur leur véhicule. Donc c'est avant tout un lieu d'apprentissage de savoir-faire technique et de réappropriation des savoir-faire techniques et des mondes techniques qu'on utilise du coup pour le coup pour se déplacer. L'idée aussi qu'il y a derrière ça, c'est que notre rapport à la technologie en général, nous on milite pour le rendre de plus en plus actif et de plus en plus impliqué par les utilisateurs en fait. Et c'est aussi écologiquement un moyen de répondre à plein de choses, notamment à l'obsolescence programmée, au tout jetable, et c'est presque vrai pour les voitures hein, en quelque sorte. Si on dématérialise le rapport à ces moyens de transport, on en prend plus soin. Si on en prend plus soin, ils durent moins longtemps. Et nous, on est plus dans l'optimisation et dans le fait de garder les choses en état de fonctionner et de leur continuer à leur donner une histoire que de les jeter pour en acquérir d'autres. Puis même le décor, il dit ça ici. Hein. On a des vieilles tables, on ne veut pas jeter, quoi.
C'est dans cette dynamique un peu, j'ai vu sur votre site que vous vouliez autonomiser les publics face aux mobilités.
Oui, ça passe par plusieurs choses. Alors, on a plusieurs projets en cours sur ce domaine-là. Donc, l'historique, c'est la réparation accompagnée, ce dont je viens de parler. Mais on a également ouvert une maison des mobilités à Bruges. Donc, c'est un petit pôle, c'est un atelier vélo où on peut venir avec contre une adhésion, réparer son vélo, acquérir des pièces, faire des ateliers. Donc ça, c'est vraiment de l'accompagnement des publics. On a eu un financement aussi qui s'appelle Manufacture de Proximité. C'est un financement de l'État qui accompagne les lieux, les tiers-lieux, donc les lieux comme les nôtres en fait, de production. Nous, on a répondu pour être à l'avenir en capacité de continuer à travailler sur des véhicules électriques, d'électrifier des véhicules thermiques et de développer de nouveaux services peut-être plus lisibles pour faire ce qu'on a commencé à faire de manière embryonnaire. On fait des remorques à vélo, là on va en faire d'autres modèles, on électrifie des vélos au coup par coup, là on est en train de le faire pour une flotte, donc c'est ce genre de choses. L'idée c'est que on maintienne une autonomie des personnes qui viennent chez nous quant à l'appropriation technique de leurs moyens de déplacement, mais on fait le constat aussi que les technologies, les moyens de déplacement, elles évoluent et elles rendent de plus en plus difficile en fait cette appropriation, parce que de plus en plus les voitures c'est des boîtes noires, un vélo électrique, quand la batterie fonctionne plus, il faut l'acheter, parce que sinon elle risque d'exploser si on commence à la bricoler. Donc notre job en ce moment sur les mobilités, c'est de rester pertinent techniquement pour continuer à rester pertinent dans notre démarche, quoi, de pouvoir continuer à offrir quelque chose à un autre public que simplement des collectionneurs.
Donc tu me parlais justement de cette transition vers des mobilités électriques. À un moment, je crois que vous aviez un projet de rétrofit, donc pour changer les moteurs de voitures thermiques en moteurs électriques. Ça en est où ce projet ?
Alors sur le rétrofit, nous on a commencé par former tout le monde. Donc là on est déjà capable de travailler sur les véhicules électriques. On a deux types de rétrofit qui sont visés par ce projet-là. Il y en a un qui est léger et low-tech. C'est de passer à l'éthanol des véhicules existants. Donc c'est un tout petit kit électronique, mais qu'il faut quand même apprendre à poser et comprendre comment ça marche. Donc ça on peut le faire. C'est-à-dire qu'on prend un véhicule tel qu'il est, on pose ce boîtier. Alors c'est compatible avec la plupart des véhicules essence, mais pas tous. Et une fois qu'on a ça, on a accès à un carburant qui, en plus d'être moins cher, a un bon résultat d'après l'ADEME sur les particules en tout cas, ce qui est intéressant quand on est en ville. Donc ça c'est le premier volet qui est opérationnel tout de suite.
Et il coûte combien ce kit ?
Le kit posé, ça dépend des modèles, mais c'est entre 500 et 1000 euros. Donc en fait, en assez peu de kilomètres, c'est amorti et on a un véhicule qui est reparti pour un tour grâce à ça. L'autre volet qui est plus impliquant et pour lequel on est dépendant d'industriels, c'est le rétrofit électrique, le fait de changer un moteur thermique par un moteur électrique. Là-dessus, on est en attente de validation des industriels qui fabriquent les kits, qui ne sont pas encore homologués, ou en tout cas ceux qui nous intéressent comme fabricants, parce qu'ils proposent des kits assez abordables et pour des modèles assez répandus. Eux, ils sont encore en attente de leur homologation. Donc nous, on est en attente aussi, et en attendant, on s'est formé et on s'est équipé. Donc là, on est prêt, il n'y a plus qu'à attendre. C'est pour cette année, Il y a deux fabricants, grosso modo, qui nous intéressent. Et sauf problème, ils ont leurs homologations dans l'année 2024.
Et donc, concernant les chantiers participatifs sur l'automobile, enfin les ateliers participatifs sur l'automobile, par exemple, ça représente quoi ? Est-ce que les gens viennent beaucoup apprendre à réparer leur voiture ici sur une année ? C'est combien de personnes qui passent dans ces ateliers ?
Alors, c'est 500 adhérents qui sont à jour de leur cotisation en permanence de chaque côté, en fait, à l'auto et au vélo. C'est ça l'ordre de grandeur. Et après, si on raisonne en prise de rendez-vous, nous, on a 5 mécaniciens et ils sont tout le temps occupés 2 à 3 semaines à l'avance. Donc, c'est un truc qui se dément pas. Enfin, ça continue, quoi. Et on est en train de prendre ce virage technique pour continuer à rester pertinent. Et là, les mécanos me disaient que la semaine prochaine, ils vont intervenir sur une Prius pour changer un moteur. Enfin, c'est des trucs qu'on n'aurait pas pu envisager avant. Mais c'est bien. Ça veut dire qu'on reste dans notre environnement technique. On continue à pouvoir offrir notre proposition de base.
Et en termes de prix, par exemple, pour changer un filtre, faire une vidange, est-ce que c'est des prix qui sont comparatifs à des garages normaux avec du coup la spécificité d'apprendre à savoir le faire soi-même ? Comment ça se positionne par rapport à ça ?
Alors, les prix à l'auto, ils sont moins élevés que dans un garage ordinaire, mais ce n'est pas pour autant notre objectif. Nous, on veut que ce soit accessible pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de barrière, que le prix soit bas, mais on n'a pas la même démarche que des garages solidaires qui sont subventionnés pour résoudre les problèmes de mobilité et que ça coûte rien pour le bénéficiaire. Nous, on veut garder ce rapport qui est un peu à la limite de l'aide et de la communauté qui s'entraide pour faire. Et donc, le prix, il n'est pas tiré vers le bas. Nous, il nous permet de fonctionner. Et c'est de l'ordre de 45 euros de l'heure. Après, il y a des forfaits, il y a tout ça. Et il y a une adhésion qui est sur critères sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion tarif réduite pour les étudiants, chômeurs, retraités, et une adhésion plein tarif qui est plus élevée. Donc, on acte ça. Mais on ne cherche pas à aller forcément vers le bas. On se dit que ça doit rester quand même quelque chose de significatif. Voilà.
Donc ça, c'était pour la partie mobilité un petit peu du garage moderne. Tu l'as dit, il y a aussi une grande dimension culturelle où vous êtes un lieu très vaste et ouvert à tous et toutes. Vous accueillez beaucoup d'événements culturels, artistiques sur une année. Quel type d'événement vous privilégiez ? C'est quoi un petit peu l'identité culturelle du garage moderne ?
Alors, le garage, comme tu disais, c'est un lieu qui est immense. Donc nous, on reçoit des propositions en permanence. Et notre approche, c'est la suivante. C'est pas notre seul métier d'être programmateur culturel, même si on peut lancer des choses nous-mêmes, on le fait assez souvent. Très souvent, on accueille et on fait en coproduction des événements. C'est-à-dire, le festival Gribouillis, il est coproduit chez nous. Des éléments du FAB sont coproduits chez nous. Ça veut dire que la structure qui vient nous voir, elle bénéficie du lieu et puis de notre savoir-faire d'une manière ou d'une autre, et de nos publics aussi, et du fait que ça se passe dans un lieu qui n'est pas dédié à de la diffusion culturelle d'habitude. Donc, nous, le point commun, c'est qu'on doit avoir des gens qui sont alignés avec cette idée, qu'on fait de la culture dans un endroit où c'est pas prévu. Et le point commun de tout ce qu'on doit proposer aussi, c'est qu'il y a des points d'entrée pour les habitants du territoire, tout comme il y en a pour plus large. C'est-à-dire qu'on n'est ni un lieu de quartier, ni un lieu culturel spécialisé sur une thématique ou un lieu de diffusion pointue, comme peuvent l'être des scènes nationales ou des choses comme ça. Nous, l'idée, c'est d'amener les scènes nationales, ou en tout cas ce qu'elles sont capables de produire, dans un espace qui est un espace où les gens du quartier viennent. C'est ça la proposition. Donc tout ce qui est chez nous doit avoir cette communauté de vue. Et après, ça prend des formes très variées. Gribouillis, on accueille, c'est le salon du livre jeunesse et illustration. On accueille la partie salon avec les éditeurs. On accueille des grandes soirées avec les grandes traversées. On a des événements qui sont plus posés, mais qui sont très intéressants et qui ont des liens avec ce qu'on peut faire tous les jours. On avait fait la rencontre nationale des low-tech labs, donc des gens qui travaillent sur les low-tech. Ça peut être des petites pièces de théâtre, des petites formes. Et si je continue vers le petit, voire très petit, le lieu, on le rend disponible à des assos qui font leur assemblée générale, à des rencontres de quartier, etc. On a même tenté, on a fait une course qui partait et qui revenait au garage, mais avec une programmation culturelle, ou en tout cas avec des acteurs qui faisaient l'animation, etc. Donc on essaie de tirer vers des formes comme ça qui sont ambiguës entre... je fais de l'animation, mais en fait, c'était un spectacle. Donc c'est un peu ça qu'on va rechercher dans tout ce qui nous est proposé.
C'est la fin de notre point chaud pour aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter en podcast sur laclédesondes.fr. On se donne rendez-vous demain à midi pour le plat de résistance et de nouvelles infos. D'ici là, ce soir à 21h30, vous avez rendez-vous avec Moez pour Trait d'Union jusqu'au bout de la nuit. Et avant ça, à 19h, sur la Clé des Ondes, c'est au tour de l'autre parloir en compagnie de Lulu. Bonne soirée sur le 90.10 et sur laclédesondes.fr.